Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Minutes des Fiertés, l'émission flash de Esprit Occitanie à thème LGBT et féministe. Aujourd'hui et en 20 minutes, nous aborderons le sujet de la Coupe du Monde au Qatar et ce qu'elle représente pour la communauté LGBT du monde entier. Ismaël Youssoufia, responsable des Jeunes Insoumis Toulousains, est aujourd'hui notre invité.
Bonjour.
Et dans un registre plus féministe, nous nous intéresserons à un nouveau hashtag qui a récemment vu le jour sur les réseaux sociaux. La Coupe du Monde au Qatar, tout juste lancée depuis le dimanche 20 novembre, fait parler d'elle-même depuis bien plus longtemps. Entre le constat écologique, les droits des travailleurs bafoués et ceux des personnes LGBT, cette coupe a effectivement de quoi hérisser les poils des partis de gauche et des militants de cette cause. Et c'est sur ce point précis que l'on va s'intéresser à travers nos thématiques, le bilan pour les personnes appartenant à la communauté LGBT. Nous détaillerons plus tard ce qui est reproché à cette coupe à ce niveau, mais d'abord revenons au cœur de l'Occitanie et commençons sans plus tarder par une prise de température à Toulouse. Est-ce que les Toulousains amateurs de football boycottent la coupe et si oui, pourquoi?
Je pense que le choix a été fait, donc si on avait des choses à dire, c'était avant qu'il fallait le dire. Maintenant, ils ont décidé de choisir cette destination, et ben voilà, c'était avant qu'il fallait... intervenir, pas maintenant.
Nous on n'y va pas, mais on regarde à la télé, alors je sais pas si c'est boycotté ou pas. Mais moi je suis pas trop renseigné sur tout ce qui s'est passé là-bas et tout, on a entendu trucs.
Si parfois il y a des soirées où on va aller dans un bar voir le match, mais sinon moi c'est pas plus. Après ouais, par contre ce qui s'est passé là-bas c'est assez chaud quand même. Je vais pas dire que je boycotte, parce que ça serait hypocrite, je le fais pas. Mais je trouve que c'est quand même une aberration quoi.
On regarde pas parce que il y a plein d'ouvriers qu'on a fait venir, qui ont travaillé dans des conditions horribles. Et donc la moindre des choses c'est de pas la regarder.
Tout ce qu'il y a eu pour écologiquement déjà, par rapport à la climatisation et tout ça, pour les personnes qui sont mortes sur le chantier, pour aussi ce qu'il y a autour des LGBT, plein de raisons.
Contextualisons tout ça avec des faits. Le Qatar est un pays qui criminalise encore de nos jours les relations homosexuelles punies de 7 ans de prison. L'ONG Human Rights Watch assure également que la police qatari a déjà détenu arbitrairement et maltraité des membres de la communauté LGBT. Ce choix de la FIFA est de fait vivement critiqué par les personnes concernées et par ceux dont les valeurs sont sensibles à ce genre d'injustice. J'accueille donc Ismaël Youssoufia, responsable des Jeunes Insoumis de Toulouse. Ismaël, votre parti de la France Insoumise a été très touché par le sujet et s'en est saisi. La députée Mathilde Panot appelait à un boycott diplomatique sur BFM TV il y a de ça quelques jours. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez une réaction à nous partager sur ce que nous venons d'entendre ?
Quelle réaction avoir ? C'est vrai que beaucoup de sujets sont à traiter concernant cette Coupe du Monde de Qatar. Bien sûr, nous parlerons aujourd'hui des droits LGBTQIA+ dans ce pays, mais en effet, il ne faudrait pas oublier qu'il y a dans cette Coupe du Monde d'autres sujets. Le sujet des droits humains, des droits des travailleurs, la construction des infrastructures a fait 6500 morts parmi les travailleurs, des travailleurs issus d'autres pays à qui on vole le passeport, à qui on force le travail au-delà du raisonnable, qui vivent dans des conditions de vie déplorables et même des bidonvilles. Une catastrophe écologique aussi. Le Qatar, c'est aussi un pays où les droits des femmes sont bafoués. Enfin, voilà, je pourrais vous faire une liste encore plus longue, mais il y a 12 000 sujets différents qui nous poussent à appeler à un boycott diplomatique sur la Coupe du Monde au Qatar.
Dans les raisons de boycott pour les personnes qu'on vient d'entendre, en tout cas, on entend peu de sensibilisation à la question LGBT. Quand c'est du boycott, c'est souvent pour les droits des travailleurs ou l'écologie, mais peu pour cette raison-là, en tout cas.
Oui, c'est vrai, c'est ce que dit votre micro-trottoir. Après, il faut pas oublier que les droits des LGBT sont un sujet qui n'est pas directement dû à la Coupe du Monde. On n'a pas attendu la Coupe du Monde pour remarquer qu'au Qatar et dans beaucoup de pays encore en voie de développement ou du Moyen-Orient en tout cas, qu'il y a des atteintes aux droits LGBT. N'oublions pas qu'au Qatar, un acte d'homosexualité est puni à mort pour les personnes musulmanes et puni de 7 ans d'emprisonnement pour les personnes non musulmanes. Ce qui est vraiment un danger pour une part de la population, une minorité certes, mais une part à ne pas nier.
Alors depuis combien de temps la France Insoumise se positionne en interne quant à cette coupe ?
Depuis, Si on remonte à la France insoumise, bien, depuis 2017, je vous dirais, Jean-Luc Mélenchon, dès le vote pour le Qatar en 2010, avait fait part de ses doutes, notamment d'un point de vue de la corruption. N'oublions pas qu'il y a des soupçons de corruption vis-à-vis de Nicolas Sarkozy et de Michel Platini quant au vote pour le Qatar de M. Platini. Donc c'est une question qu'on saisit, et en effet, des événements internationaux aussi importants et regardés que la Coupe du Monde devraient être un message d'humanité, et ce n'est pas ce qu'est le Qatar.
En quoi portez-vous cette lutte dans vos valeurs à la base, à la France Insoumise ?
La lutte contre la LGBTphobie est évidemment un sujet majeur de notre programme de la vie en commun, de l'ensemble des militants insoumis et jeunes insoumis. En effet, pour le mouvement jeunesse de notre organisation, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Donc c'est un sujet que nous avons toujours porté, que nous porterons toujours. Je suis très fier qu'aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse soit un droit qui est constitutionnel, une proposition de loi de la France Insoumise qui a été votée aujourd'hui. J'en suis très heureux, et elle n'exclut pas les hommes transgenres qui peuvent aussi tomber enceintes. Et c'est un bonheur pour nous tous de savoir que certaines personnes ne sont pas exclues par leurs différences.
Oui, donc vous portez des valeurs de tolérance envers cette communauté très ancrée. Qu'en est-il pour le message que renvoie la FIFA à travers cette décision, donc ?
La FIFA, elle annonce un manque de courage par rapport aux engagements qui sont pris, au droit universel des droits de l'homme, enfin à la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est, comment dire, la FIFA manque de courage, elle aurait dû agir, notamment en réautorisant et en n'interdisant pas tout simplement le brassard LGBT qui est porté par plusieurs équipes. Et là où d'autres équipes comme l'Allemagne ou la Belgique se sont montrées par leur protestation à l'encontre de l'interdiction de ce brassard qui est fait pour montrer à la communauté LGBT qui existe au Qatar et qui ne doit pas subir des lois répressives. L'équipe de France s'est aussi pliée à la FIFA, à la Fédération Française de Football. Quand j'entends Hugo Lloris demander à respecter les traditions du Qatar concernant les droits LGBT, je me demande de quelle tradition on parle. Exécuter des personnes pour leur orientation sexuelle ou pour leur genre n'a jamais été une tradition. C'est un délit, et un délit condamné par la Déclaration universelle des droits de l'homme.
On reviendra sur cette question de brassard LGBT que vous avez abordé plus tard. Est-ce qu'on a affaire à l'origine à une institution foncièrement homophobe ou anti-LGBT, donc pour ce qui est de la FIFA, selon vous ?
Les droits LGBT ont toujours été remis en question au sein du sport, au sein du football. Si je peux reprendre ce même Hugo Lloris qui avait dit que les insultes homophobes font partie du folklore du football. En plus d'être une déclaration totalement honteuse, il met en évidence une véritable problématique au sein du foot français et du sport en règle générale. Et heureusement, certaines organisations prêtent en main ce sujet. Malheureusement, ce n'est pas le cas du foot, ou très peu en tout cas. Par contre, j'ai été très heureux de voir la Fédération Française de Rugby au match où je suis allé France-Japon à Toulouse dimanche dernier, remarquer que des publicités promeuvent le sport pour les LGBT. Et la FFR est quand même la première organisation, Fédération Française de Sport, à avoir prévu des règles pour les personnes trans.
Oui, avec leur joueuse Alexia Serenis d'ailleurs. Par rapport à tous ces sports, donc, on voit de plus en plus de coming out de joueurs de tous sports confondus. Est-ce qu'on peut dire que c'est un certain progrès, que ça rééquilibre la balance comparé à ce qu'on voit donc, avec des décisions de la FIFA de ce genre ?
C'est un progrès, pour les gens qui ont fait leur coming out. Malheureusement, c'est pas encore un progrès dans les institutions, puisque ces personnes ont tendance à encore subir des moqueries, du harcèlement, dû à cette orientation sexuelle ou à ce genre qui est différent de ce qu'ils laissent paraître finalement. Donc c'est bien qu'ils puissent l'annoncer sans risquer trop grave, mais ils subissent quand même le comportement de certains, et il faut lutter contre, et ça c'est à la Fédération Française de lutter contre.
Et alors, pour revenir à cette Coupe du Monde au Qatar, est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement choisir un lieu pour cette Coupe où tout le monde pouvait venir en toute liberté, tout simplement?
Pas vraiment, parce que je pense que le combat, il est de tous les instants. Donc, on peut dire, il fallait y penser en 2010. En attendant, en 2010, personne ne s'attendait à ce que le Qatar gagne le vote pour accueillir la Coupe du Monde de 2022. Les États-Unis, qui étaient aussi candidats, étaient largement favoris. Et c'est vraiment un tour de force et une immense surprise. Alors bien sûr, et depuis ce moment-là, c'était du rôle de tous les militants pour les droits LGBT, pour les droits des femmes, pour les écologistes, de lutter contre la venue de cette Coupe du Monde au Qatar. Mais en effet, c'était difficile à prévoir. Donc c'est un combat de tous les instants qui a commencé en 2010 et qui finira aujourd'hui.
Alors pour le coup, les États-Unis, au vu de l'actualité des droits des femmes en ce moment, on aurait peut-être eu un problème aussi si la Coupe du Monde avait été représentée par ce pays. Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne fallait pas politiser le sport. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous comprenez en partie cette position?
Le président de la République a quand même montré son hypocrisie par cette phrase, parce qu'il a toujours politisé le sport depuis 2017. Je me rappelle qu'il a fait campagne en allant jouer un match de foot avec des gamins d'un quartier populaire. En 2018, lorsque la Coupe du Monde avait lieu en Russie, ça a été le premier à afficher un soutien de victoire, à être allé dans les vestiaires des joueurs, les féliciter une fois qu'ils avaient gagné cette Coupe du Monde. Donc c'est le premier à politiser le sport. Donc il peut garder ses leçons pour lui, je pense.
Mais c'est un certain outil de soft power aujourd'hui, on peut le dire. Donc selon vous, on ne peut pas dissocier sport et valeur.
Non, certainement pas. La Coupe du Monde, c'est le cas aussi par exemple des Jeux Olympiques. Ils ont un intérêt politique, ils ont un intérêt géopolitique, économique. Et ce qu'on observe à travers cette phrase, c'est qu'Emmanuel Macron a choisi son camp, celui de faire du business, avec le Qatar en l'occurrence, quitte à fermer les yeux devant la violation des droits de l'homme.
Et donc, que faire alors de cet avantage diplomatique que cette coupe représente pour les pays européens?
La question, c'est à travers quelles valeurs on veut faire passer cette Coupe du Monde. J'ai envie de vous dire... Très bien, oui, peut-être que la France, et je l'espère, va gagner cette Coupe du Monde 2022. Mais à quel prix? Ça aurait été les seuls à ne pas défendre les droits des LGBT, à accepter gentiment et à ne pas avoir porté le fameux brassard depuis le premier jour. Pour moi, c'est une victoire sur le plan footballistique, mais certainement pas sur le combat des valeurs.
Et justement, en parlant de cette équipe de France, pensez-vous qu'elle aurait dû elle-même boycotter cette Coupe? Est-ce que ça aurait été possible, selon vous?
Un boycott total de l'équipe de France est difficile en soi. Hein. Il faut pas nier. C'est un événement très, très important qui réunit les Français autour de leur téléviseur pendant près d'un mois. Donc, évidemment, c'était compliqué de se dire que l'équipe de France ne participerait pas à cette Coupe du Monde. Par contre... Maintenant, c'est au pouvoir public d'agir, à l'État, à la Fédération française de football, d'agir pour que les valeurs françaises soient représentées au sein de ces Coupes du Monde.
Vous nous avez parlé tout à l'heure de ces fameux brassards que voulaient porter des capitaines d'équipe en soutien aux LGBT. Est-ce que ça aurait été suffisant pour vous, pour les soutenir, ou est-ce que c'est un peu une manière de se dédouaner, selon vous?
Dans la situation actuelle, c'est un symbole fort et je suis content qu'il soit porté. Bien sûr qu'on pourrait faire plus. On aurait pu mettre en suspens l'interdiction d'actes homosexuels entre guillemets, ce qui d'ailleurs des termes parfaitement honteux utilisés par le ministre des Affaires étrangères qatari. Mais on pourrait demander à ce que les lois réprimant l'homosexualité soient suspendues le temps de l'événement. On aurait pu tout simplement faire en sorte que ces droits soient respectés par le soft power que la France possède, parce qu'en effet, la France, on est le pays des droits de l'homme, et de ce fait, on est le pays des droits des LGBT aussi, et c'est à nous de faire avancer d'autres pays par notre influence sur ce sujet. Et je vois que Emmanuel Macron s'est totalement dédouané de cet événement.
Est-ce que la France insoumise prévoit une marche, un mouvement de protestation en termes d'action aujourd'hui?
Pas à l'heure actuelle, Mais je pense qu'on a été très clair dans nos communications. Pardon. On soutient évidemment toutes les manifestations qui sont lancées par les associations de défense des droits LGBT. Nous les soutenons et nous y participons. Après, il me semble que c'est un sujet transpartisan dans lequel, enfin, pour moi, c'est évident, on ne devrait pas... intégrer la NUPES de manière à monopoliser le sujet. J'aimerais que LREM, enfin Renaissance, porte ce sujet. J'aimerais que LR fasse de même ou le RN. En tout cas, je vois qu'on est les seuls à en parler et je trouve ça extrêmement triste pour notre débat politique en France.
Et alors, pour conclure ce sujet, selon vous, est-ce qu'un boycott donc de la part des citoyens, des fans de foot, est-ce que c'est significatif aujourd'hui pour montrer sa solidarité ?
C'est un signe. Après, je remarque que non, nous ne demandons pas un boycott qui est total. Bien sûr, nous soutenons toutes ces initiatives et je suis le premier à boycotter la Coupe du Monde. Par contre... est-ce qu'on doit vraiment faire reposer la charge de cette atteinte aux droits de l'homme à la population française ? Moi, je ne suis pas sûr. Comme je l'ai dit, c'était à l'État de faire en sorte de porter les valeurs de la France. C'était à l'État, à l'époque de M. Sarkozy, d'éviter que le Qatar soit élu pour accueillir la Coupe du Monde. Donc, oui et non, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est une bonne démarche, à la fois, on ne peut pas l'imposer et c'était vraiment pas la première action que nous souhaitions mettre en place.
Vous parlez de boycott total, mais alors qu'est-ce qu'un boycott partiel dans ce cas ?
C'est un boycott politique. Monsieur Macron a annoncé vouloir venir à la Coupe du Monde une fois passé les demi-finales si l'équipe de France s'y qualifie. Je suis pas sûr qu'il soit le bienvenu parce qu'il apporterait un soutien, enfin chose qu'il fait déjà, mais il appuierait sur ce soutien au Qatar. Et non, il devrait plutôt accueillir la France en espérant qu'elle soit victorieuse une fois qu'elle soit de retour en France. C'est un premier boycott.
Merci Ismaël d'avoir répondu à nos questions. Continuons cette émission avec un tout autre sujet. Un nouveau hashtag polémique s'empare des réseaux sociaux depuis quelques semaines, le MeToo lesbien. À l'image du MeToo apparu il y a maintenant 5 ans, il véhicule un message de lutte contre les violences sexuelles, mais à l'intérieur des relations lesbiennes, donc entre deux femmes. Lucie est la créatrice du compte Twitter du même nom et à l'origine de ce mouvement naissant. Il est également présent sur Instagram depuis septembre 2022 et récolte les témoignages des victimes de ces types de violences. Voici l'extrait d'un de ces témoignages qui sont pour la plupart anonymes. Je l'ai rencontrée sur mon lieu de travail. C'était la première fille que j'aimais. Tout est allé très vite. Elle a pu exercer une emprise sur moi en près de 2 semaines. Je devais tout le temps être avec elle. Peu importe que j'ai besoin de me reposer ou que je vienne d'apprendre un cancer dans ma famille. Elle ne me laissait pas le temps pour pouvoir prendre du recul. C'est comme ça que ça marche l'emprise. En tant que femme homosexuelle, Lucie ne se sentait pas légitime à s'exprimer sur les violences conjugales et sexuelles qu'elle subissait dans ses couples lesbiens. C'est donc ce moyen qu'elle a choisi pour libérer la parole à ce sujet. Déjà 62 témoignages ont été recueillis en 2 mois, plus de 6000 tweets et un total de 2000 followers, tous réseaux sociaux confondus. Un tabou inédit semble donc se lever au travers des réseaux sociaux, vecteur de libération de la parole. Alors Ismaël, peut-être un commentaire sur ce hashtag tout juste naissant. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler.
Si, j'en avais entendu parler. Pour moi, c'est toujours un sujet primordial. Dès qu'il s'agit de noter des violences qui sont faites aux femmes ou aux LGBT, c'est un sujet pour moi absolument essentiel. Donc que la parole des femmes se libère, c'est une très bonne chose.
Cette émission touche à sa fin, c'en est tout pour l'actualité LGBT et féministe aujourd'hui. Nous avons voyagé du Qatar jusqu'au monde virtuel des réseaux sociaux pour aborder des sujets plus ou moins de notoriété publique, mais qui peuvent diviser et questionner tout autant. Je remercie Ismaël Youssoufuar, responsable des Jeunes Insoumis Toulousains, d'avoir été notre invité. C'était les Minutes des Fiertés sur Esprit Occitanie. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.